Stop.
RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. Et maintenant, RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos envoyés spéciaux, avec nos correspondants et à la une, mercredi 1er avril, un nouveau plan pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient présenté par les médiateurs pakistanais et chinois. On en parle dans un instant dans le journal. Une initiative alors que l'Iran dit ne même pas avoir répondu à un autre plan américain celui-ci et que les bombardements se poursuivent. Pour l'instant, Donald Trump parle d'une fin de la guerre d'ici 2 à 3 semaines. Une guerre aux enjeux religieux aussi, selon son secrétaire à la Défense. On voit ça dans la Fabrique du Monde dans un quart d'heure. Donald Trump, qui s'illustre également dans son pays, le président des États-Unis, assistera tout à l'heure au débat à la Cour suprême sur l'un de ses décrets très controversés signés dès son retour au pouvoir. Il prévoit de supprimer le droit du sol. Jamais un chef d'État n'avait fait cela et nous demanderons à notre invité dans un peu plus d'une heure si cela compromet la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice.
RFI Midi.
En Turquie, c'est la laïcité qui est remise en cause par le président. Ça n'est pas nouveau, mais les défenseurs des droits humains et une partie de la société accusent Recep Tayyip Erdoğan d'instrumentaliser la religion pour des raisons politiques.
À long terme, il s'agit de remodeler la société, d'impulser une transformation sociale qui corresponde à son idéologie politique. À court terme, l'objectif est de consolider sa base électorale. On l'a vu avec cette polémique récente autour du ramadan à l'école. Elle a permis au pouvoir de prendre la société à témoin pour pointer du doigt ceux qui critiquent ces pratiques présentées comme des ennemis de la religion.
Reportage à écouter dans quelques minutes. On parlera aussi football, bien sûr, puisque l'on connaît maintenant tous les qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Et ça sera avec la République démocratique du Congo.
L'été prochain, on sera aux États-Unis, au Mexique et au Canada pour la Coupe du Monde. Minimum quart de finale.
Les quarts de finale, carrément, pourquoi pas. La joie des Congolais à écouter dans Afrique Midi, midi et demi, temps universel. Vous avez le programme, bienvenue. Et l'on commence avec votre journal, Gilles Moreau, le Moyen-Orient, à la une après plus d'un mois de guerre.
Oui, Anne, avec parmi les derniers faits marquants, des frappes iraniennes sur Israël. Selon les services de secours, 14 personnes ont été blessées dans la région de Tel Aviv après de nouveaux tirs de missiles. Quant aux frappes israéliennes sur Téhéran, l'armée de l'État hébreu annonce avoir mené des frappes de grande ampleur contre des infrastructures, sans plus de précision. Au Liban, des frappes nocturnes d'Israël ont secoué Beyrouth, faisant de sources libanaises 7 morts. Israël affirme avoir ciblé d'importants responsables du Hezbollah pro-iranien. Les bourses européennes ont commencé la journée en forte hausse. Les marchés veulent croire malgré tout à la dernière volte-face de Donald Trump sur un retrait militaire américain d'ici 2 ou 3 semaines. Le président et son secrétaire d'État ont tous deux évoqué hier soir une fin du conflit, même sans accord avec les Iraniens. D'autres acteurs mènent des efforts diplomatiques. Dernier plan en date, le plan en 5 points présenté par la Chine et le Pakistan. Précision de Nicolas Falaise, notre envoyé spécial dans le Golfe.
Un cessez-le-feu, la fin des attaques contre les infrastructures civiles, le déblocage du détroit d'Ormuz, le début de négociations de paix et le respect de la charte des Nations Unies. Ce sont les contours du plan présenté par la Chine et le Pakistan qui, au passage, promettent de renforcer leur coopération face à la crise en cours. Il y a quelques jours, le Pakistan était déjà au centre d'une initiative diplomatique, accueillant sur son sol des représentants égyptiens, turcs et saoudiens. Le Pakistan continue de se présenter en possible médiateur entre Téhéran et Washington. La Chine, de son côté, bénéficie de sa proximité avec l'Iran, mais pas seulement. Il y a tout juste 3 ans, Pékin réalisait un coup d'éclat diplomatique au Moyen-Orient en facilitant le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite après des années de fortes tensions entre les deux pays. Nicolas Falaise, Doha. RFI.
L'Iran a fait savoir qu'il n'avait pas répondu au plan américain en 15 points transmis la semaine dernière par Donald Trump, son chef de la diplomatie, refusant toujours de parler de négociations. On le voit, la plus grande incertitude entoure une fin prochaine du conflit déclenché il y a un peu plus d'un mois par les États-Unis et leurs alliés israéliens. Impossible aussi de dire à ce stade à quoi ressemblera le futur Moyen-Orient. Il semble en tout cas peu probable que la région se lance dans une course à l'armement nucléaire. Explication de Guilhem Deltaille.
C'est une lecture partagée par la frange la plus radicale des dirigeants iraniens. Posséder l'arme nucléaire aurait protégé le pays des attaques israélo-américaines, mais la République islamique est aujourd'hui dans l'incapacité de se doter de la bombe atomique, estime Benjamin Haute-Couverture de la Fondation pour la Recherche Stratégique à Paris.
Les termes de l'équation sont tout à fait différents aujourd'hui, parce que les attaques ont eu lieu et pourront avoir lieu à nouveau à l'avenir. Et par conséquent, ont-ils encore cette possibilité de mener un programme clandestin alors qu'ils sont surveillés par les Israéliens désormais?
Un Iran nucléaire est une perspective qui inquiète aussi ses voisins arabes, Arabie Saoudite et Égypte en tête. Mais elles non plus n'ont pas nécessairement la capacité de développer un programme nucléaire militaire, indique Benjamin Haute-Couverture.
Entre la volonté de lancer un programme et l'aboutissement de ce programme, il y a un gouffre. Et il faut remplir ce gouffre avec des ressources, avec la possibilité politique, économique, stratégique, militaire de le faire.
La prolifération est un avenir compromis au monde depuis 50 ans, estime Benjamin Haute-Couverture. Mais pour le chercheur, il n'y a pas en réalité de raison de penser réellement que les facteurs de prolifération nucléaire se sont exacerbés depuis 1 ou 2 ans.
Dans ce contexte, Emmanuel Macron poursuit sa visite officielle au Japon avec en toile de fond la guerre et ses répercussions économiques mondiales. À noter que les cours du baril de pétrole reculent, repassant sous la barre des 100 dollars le baril. Ce contexte doit conduire la France et le Japon à approfondir leur coopération et à développer leurs relations d'affaires. C'est le message que le président français a fait passer, c'était ce matin à Tokyo, lors d'un forum économique devant un parterre de chefs d'entreprise et investisseurs nippons. C'est le jour J pour le décollage de la mission lunaire Artemis 2. Rendez-vous est pris ce soir au Centre Spatial Kennedy en Floride à partir précisément de 22h24, temps universel, là où s'élève une immense fusée orange où prendront place 4 astronautes, 3 Américains et un Canadien. Ils seront les premiers à partir vers la Lune depuis plus d'un demi-siècle. La mission n'est qu'un vol d'essai hein, puisqu'elle fera le tour de notre satellite naturel sans s'y poser.
Une question maintenant, naître sur le sol américain donne-t-il droit à la nationalité ?
Oui, c'est la question sur laquelle se penche aujourd'hui la Cour suprême des États-Unis sur fond de politique anti-immigration. Le dossier est porté par l'administration Trump qui s'efforce de restreindre l'accès à la nationalité américaine. Sur place pour RFI, Loubna Anaki.
C'est l'une des promesses de campagne de Donald Trump, mettre fin au droit du sol. Et dès son premier jour à la Maison-Blanche, il avait immédiatement signé un décret pour exclure de la citoyenneté les enfants nés aux États-Unis de parents en situation irrégulière ou de passage. Les organisations de protection des droits civiques avaient immédiatement saisi la justice et jusqu'ici, elles ont obtenu gain de cause, jugement après appel, jusqu'à ce que le dossier se retrouve devant la plus haute juridiction du pays. Les 9 juges vont entendre les arguments de chaque camp. Aujourd'hui, au cœur du débat, le 14e amendement de la Constitution. C'est à l'interprétation de ce texte que Donald Trump et ses alliés s'attaquent. Et l'enjeu est colossal. Si le décret présidentiel est validé, ce serait un coup de tonnerre, comme ce fut le cas pour le droit à l'avortement, et ce serait une rupture avec un siècle et demi de pratique. Selon les organisations qui soutiennent le droit du sol, cela pourrait créer des générations entières de personnes nées sur le sol américain, mais privées de papiers et de droits de base. L'examen de cette question devrait durer plusieurs semaines pour une décision attendue fin juin, début juillet. Loubna Anaki, New York, RFI.
Aux États-Unis, toujours, c'était attendu et redouté par les défenseurs de l'environnement. Le verdict est tombé après une réunion de 20 minutes derrière des portes closes. Les secteurs pétroliers et gaziers américains pourront développer leurs activités dans le golfe du Mexique et ce, au mépris de toutes les lois environnementales. La mesure a été prise par la God Squad, l'équipe divine, hein. Ainsi surnommée, car c'est la seule à pouvoir passer outre la protection des espèces menacées. Parmi elles, l'emblématique baleine de Raïssa. Le golfe du Mexique est son seul habitat. Il n'en reste plus qu'une cinquantaine. En France, le projet de loi constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie arrive à l'Assemblée nationale. Il vise à traduire juridiquement l'accord de Bougival, accord signé l'an dernier par le gouvernement et par les forces politiques locales, mais que rejette maintenant le FLNKS, principal mouvement indépendantiste en Nouvelle-Calédonie. Toujours à la page politique en France, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, tente de calmer un vent de fronde dans son parti. Certains cadres, en effet, ne veulent pas entendre parler d'une primaire à gauche en vue de la présidentielle de l'an prochain. Hier soir, Olivier Faure a tenté d'arrondir les angles lors d'un bureau national. Victorien Villaume.
Depuis la fin des municipales, Olivier Faure est mis sous forte pression. Ses opposants internes lui reprochent la stratégie du parti lors des municipales. En premier lieu, les rapprochements locaux avec la France insoumise. Mais hier, c'est sur un autre sujet que le socialiste Boris Vallaud a mis sur la table son départ de la direction du parti, le projet de primaire de la gauche. Boris Vallaud ne veut pas entendre parler de ce processus. Il estime que le PS s'endort et qu'il est temps de le mettre en ordre de bataille pour la présidentielle. Il faut arrêter les magouilles type primaire et désigner un candidat interne au parti, s'agace sur la même tonalité un autre député PS. En réponse, Olivier Faure promet un vote des militants sur le processus présidentiel et avant le mois de juin. Et le premier secrétaire assure qu'il ne voit pas en la primaire la seule solution pour trouver un candidat commun pour la gauche en 2027. S'il y a d'autres voies de passage, dit-il, je prends.
Et si la tenue de cette primaire à gauche unitaire, on le voit, est incertaine, et bien sur le papier, elle est prévue pour le mois d'octobre. En bref, avant de conclure, le bilan final s'annonce lourd au Burundi après les explosions consécutives à l'incendie d'un dépôt de munitions. C'était hier soir à Bujumbura, la capitale économique. Il y a des morts, on ne sait pas encore combien. Catastrophe aérienne en Crimée annexée. Un avion de transport militaire russe s'est écrasé après avoir survolé la péninsule. Aucun rescapé parmi les 30 personnes à bord, 7 membres d'équipage et 23 passagers. Une enquête a été ouverte sur les causes du crash. Enfin, tous à la maison, la presse italienne du jour fulmine après le troisième échec de suite du pays à se qualifier pour le mondial de football. Sorti par la Bosnie, l'Italie sera spectatrice de ce mondial organisé à partir du 11 juin aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les matchs de barrage ont livré leur verdict. La RDC sera du voyage en Amérique, de même que l'Irak qui a sorti la Bolivie. La Turquie, elle, enfin, a validé son billet en battant le Kosovo 1-0. La Turquie n'avait plus participé à une Coupe du Monde depuis sa troisième place il y a 24 ans. Vous écoutez RFI, il est pratiquement 13h12 ici à Paris. Très bonne journée, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
C'était le journal de Gilles Moreau. Et pour débuter RFI Midi, la fabrique du monde au Moyen-Orient où la guerre continue, on en parlait dans le journal. Et ce conflit, il n'est pas que militaire, en tout cas pas si l'on écoute le secrétaire américain à la Défense. Pete Hegseth lui donne aussi une dimension religieuse, Guillaume Nodin.
Oui, lors de son point presse d'hier, il a marqué son propos d'une prière pour les soldats sur place. Au nom de Jésus-Christ, a-t-il dit, lors d'un office au Pentagone il y a une semaine, il priait pour une violence écrasante contre ceux qui ne méritent aucune pitié. Il faut dire que Pete Hegseth a une conception bien à lui et bien affirmée de sa religion. Elle remonte manifestement aux croisades, c'est-à-dire pas le moment le plus écuménique de l'histoire du christianisme. On peut le voir par deux tatouages qu'il n'a jamais cachés. L'un sur sa poitrine est une croix de Jérusalem, un emblème des croisés pendant leur guerre en Terre Sainte. L'autre sur le biceps droit, deux mots en lettres gothiques, Deus vult. C'est du latin, cela signifie « Dieu le veut » et c'était un cri de guerre de ces mêmes croisés au moment de tuer des musulmans. Et pour bien clarifier qu'il n'est pas musulman, Pete Hegseth exhibe depuis un an un troisième tatouage en arabe, le mot « kafir » qui signifie « mécréant » ou « infidèle ».
Et ça, ça lui a valu des critiques et des problèmes.
Oui, parce qu'on est plutôt dans le choc des civilisations que dans le dialogue interreligieux. Là. Quand il était soldat dans la garde nationale, ses tatouages, symbole d'appartenance à l'extrême droite nationaliste chrétienne, l'ont fait exclure de l'opération de sécurisation de l'investiture de Joe Biden en 2021, quand des milliers de soldats avaient été déployés à Washington après l'assaut contre le Capitole le 6 janvier. Dimanche à Rome, Léon XIV, premier pape né aux États-Unis, expliquait que le Dieu des catholiques refuse la guerre et n'écoute pas les prières de ceux qui font la guerre. Si le vice-président Jelly Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio sont catholiques, Pete Hegseth, lui, ne l'est pas. Le secrétaire à la guerre est un chrétien évangélique particulièrement prosélyte. Il a amené avec lui au Pentagone un pasteur opposé, entre autres, au vote des femmes. Pete Hegseth a aussi décidé que désormais, sur leur uniforme, les aumôniers de l'armée américaine ne porteraient plus leur grade, mais un insigne indiquant leur religion. Cela inquiète des responsables militaires et religieux interrogés par le Washington Post. Ils craignent que ceux qui ne sont pas dans la nouvelle ligne soient marginalisés.
C'est une idéologie religieuse qui inspire en fait une bonne partie de la politique actuelle aux États-Unis.
Oui, pour des raisons électorales, évidemment, au-delà de la foi, les chrétiens évangéliques constituent une part importante de l'électorat MAGA. Durant toute la campagne, Donald Trump leur a envoyé des signaux. Il l'a encore fait récemment en instaurant un bureau de la foi à la Maison-Blanche. C'est valable aussi en politique étrangère. Au Nigeria, l'administration Trump a accusé, sans preuve, le gouvernement de laisser commettre des massacres de chrétiens avant de signer avec lui un accord sur la coopération en matière de santé avec des financements particuliers et importants pour les établissements de santé chrétiens. Enfin, l'actuelle guerre au Moyen-Orient, aux côtés d'Israël, ne déplaît pas aux évangéliques américains, particulièrement ceux que l'on appelle les sionistes chrétiens. Leur interprétation très littérale de la Bible les porte à croire que la réussite d'Israël est le préalable au retour du Christ sur Terre à l'issue de l'Apocalypse.
À demain, Guillaume Nodin, si l'Apocalypse n'est pas survenu d'ici là.
RFI, l'Europe à midi.
L'actualité en Europe et des discussions qui se poursuivent entre Paris et Londres. L'enjeu, la politique migratoire. L'accord controversé qui a mis en place une sorte d'échange. Le versement de fonds par le Royaume-Uni.
Oui, allô, vous avez un message.
Radio HDR, le mix de toutes les cultures. C'est sur le 99.1 FM.
Je vous remercie de votre attention.
I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Since I come home, well, my body's been.
horizon and I look across the border.
99.1.
Le mix.
Flash spécial.
La construction, un secteur qui recrute en Normandie.
Envie d'un métier qui compte ? La construction, c'est avec vous et pour vous. C'est plus de 30 métiers dans le bâtiment et les travaux publics. Utiles, concrets, innovants. Des métiers pour tous. Et pour s'y former, rien de mieux que l'apprentissage. Alors, prêt à passer à l'action ? Il y a forcément un centre de formation près de chez vous. Rendez-vous sur laconstruction.fr.
La construction, la vivre, c'est encore mieux.
Le mix des cultures.
99. HDR.